Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 3, épisode 9. Une Heure en Série, un 55 minutes chrono pour débattre de l'actualité des séries. Et grâce à la vie affûtée, parfois mordant, totalement corruptible de nos chroniqueuses et de notre chroniqueur. Oui, ça, vous pouvez vraiment les acheter avec ce que vous voulez. Eh bien, nous allons essayer de vous recommander le meilleur de la série télé. Et ce soir, nous parlerons infanticide et doute maternel dans La Maison de la Rue en Pente sur Arte TV. Oui, on sait rire ce soir. Hein. Robe tachée et président fâché dans Impeachment sur Canal+. Misogynie endémique et violence faites aux femmes avec H24 sur Arte TV.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et pour cette émission très féminine, mais féministe, à vous de me le dire, j'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi Ariane Allard, de Cosette et de Positive. Bonsoir Ariane.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Marianne Lévy, dites la mime de la radio, c'est des mimes, mais sur un média qui n'est pas nécessairement propice à cet exercice artistique, mais on l'aime beaucoup. Marianne Lévy, bonsoir.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Et Benoît Lagan, alors ça le mime il en serait incapable.
Ça c'est parce vrai, que bonsoir.
Tout est dans la voix avec Benoît Lagan, que vous pouvez entendre dans le 5Z de Mathilde Mulot et Télé Matin. Le procès d'une mère de famille pour infanticide pousse une femme à prendre conscience de sa propre condition de mère et de femme au foyer. La Maison de la Rue en Pente sur Arte TV, une série japonaise en 6 épisodes, qui débute par un procès, celui d'une femme ayant noyé son bébé. Une mère infanticide dont la condamnation populaire et judiciaire est acquise par avance. Sélectionnée pour être jurée suppléante, Risako assiste au débat, voit les autres membres du jury se conforter dans des opinions toutes faites qu'il refuse de remettre en question, alors qu'elle-même est en proie au doute et voit dans cette histoire tragique de femme conspuée par une morale étriquée un écho à sa propre existence. Avec son quotidien anxiogène fait de tâches ménagères, un mari qui rentre tard pour se mettre les pieds sous la table et des beaux-parents qui, tout en jouant les grands-parents modèles, ne cessent de la culpabiliser. Peu à peu, le récit élargit son cadre narratif pour dénoncer le patriarcat japonais qui a servi encore les femmes et les mères et voit leur émancipation personnelle autant que professionnelle d'un très mauvais œil.
もう死んだような顔して坂上がって帰ってきたことあったよ子供は泣いてるしあの人そんなだし大丈夫かって心配でね子供なんて泣くもんなのにもう怒って怒鳴りつけてね
Une mère va être jugée
今回の審理の対象となるのは殺人事件です被告人の氏名は安藤瑞穂被害者の氏名は安藤凛当時生後8ヶ月
Une autre mère doit la juger.
La Maison de la Rue en Pente, réalisée par Yukihiro Morigaki avec Ko Shibazaki, Seishi Tanabe et Atsuko Takahata. On l'a compris, c'est pas la série la plus poilante de la semaine. C'est pas non plus la série peut-être la plus nerveuse non plus de notre programmation, mais elle a son rythme. Et je trouve qu'il agit. Alors, visiblement, Ariane n'est pas d'accord, mais je ne vous donnerai pas la parole tout de suite. Et je vais proposer à Marianne Lévy peut-être d'ouvrir le débat.
Écoutez, Xavier, j'avoue qu'au début, je vous en ai un peu voulu de comme ça plomber l'ambiance dès la rentrée, parce que c'est encore un peu la rentrée. J'ai été tentée de mimer ma chronique pendant 1 minute 30. Et puis, je me suis rappelé...
Le pire, c'est qu'avec vous, vous en êtes capable. J'ai très peur quand vous m'annoncez cela.
Bon, j'ai quand même lancé la série. Hein. Et alors, je vous ai pardonné dès les premières secondes. Alors, je sais, coup de cœur et infanticide, c'est pas forcément évident dans une même phrase, hein, Xavier. C'est un petit côté Halloween, comme ça, et bon, bah, cette circonstance. Pourtant, petit coup de cœur, j'ai eu...
Qu'est-ce que vous prenez?
Rien, c'est ça le pire.
Bon, continue, coup de cœur et infanticide, voilà. Ça y est, c'est fait, c'est
voilà,
dit.
Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Coup de cœur et infanticide. Oui, parce qu'on s'attend à vivre un long chemin de croix. Hein. C'est pour ça qu'on vous en a voulu hein, pour cette programmation. On s'attend à rester à hauteur de faits divers. On s'attend à du glauque, à sombrer dans le lacrymal, à organiser une rupture de stock de Kleenex au supermarché.
Alors, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous dites tout ça avec un sourire gourmand, comme s'il y avait un petit regret. Mais bon, voilà. Continuez,
mais bon,
pardon.
Mais bon. Dès les premières secondes, on est captivé parce que d'emblée, on est dans autre chose, Xavier. On est à hauteur d'intime et à hauteur sociétale. Il y a une espèce de double niveau comme ça qui fonctionne très bien. Et ce qui est très réussi, c'est que c'est une série anti-voyeurisme. C'est exactement le contraire de propositions habituelles qu'on voit sur certaines chaînes. C'est une série anti-voyeurisme, une série anti-pulsion. C'est une série qui s'adresse au cerveau très délicatement, qui nous respecte. Elle embrasse son sujet. Et je trouve que l'infanticide est traité comme un miroir du traitement que la société réserve aux mères. Et j'ai l'impression que ça dépasse bien les frontières. Alors évidemment, il y a cette fameuse société patriarcale japonaise. Mais on est bien au-delà parce que finalement, elle nous parle de notre maternité à toutes.
Absolument.
Elle atteint un degré d'universalisme que je trouve très touchant et très efficace. Et je trouve que la réalisation le respecte parce qu'elle est tout en douceur, tout en finesse, vraiment avec beaucoup de délicatesse. Et les comédiennes sont vraiment formidables, quoi. Et je trouve ça finalement très joli, et ce qui est un paradoxe, puisqu'on en revient au début, hein, qui était quand même coup de cœur, infanticide et beauté.
Ah non, mais elle a son rythme, elle a cette musicalité, rehaussée par cette petite partition musicale au piano, très douce. Et effectivement, je trouve que le contraste fonctionne très bien.
Une dernière chose que je trouve très très audacieuse, dans toute cette beauté étrange finalement de ce respect de ces femmes qui sont dans cette détresse, je trouve qu'elles sont pas rachetées. Il y a pas de parce que la tentation ça aurait été très facile d'aller comme ça les racheter en disant oui c'est horrible ce qu'elle a fait mais maintenant c'est juste un être humain dans sa complexité, cette femme comme la femme jurée d'ailleurs, et c'est ça qui est très fort et très beau et très touchant. Voilà.
Bien, Marianne Lévy, vous ayant laissé une minute à peu près pour débattre maintenant, Benoît.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marianne, et d'ailleurs je trouve que le titre de la série à cette image. La maison de la rue en pente a quelque chose d'assez poétique, et à la fois je trouve que ça dit tout du projet de la série. C'est-à-dire qu'on va être certes au tribunal, hein, avec cette affaire d'infanticide, mais on va être dans la maison, et que pour grimper vers la maison, au début c'est facile, et plus ça avance, plus ça devient compliqué, et plus on voit cette famille, notamment la famille de cette jurée, qui vacille, qui penche, qui plie. Et ça je trouve que c'est très poétique, et c'est à l'image de toute cette série qui est, et Marianne, tout ce qu'elle a dit est très juste, d'autant plus que même si je trouve que la partie judiciaire est peut-être un poil plus didactique, un peu plus sociétale, parce que c'est normal, c'est la forme de la série judiciaire qui veut ça, je trouve que tout le miroir au sein de la maison est fabuleusement montré. Moi, j'ai trouvé, par exemple, que les comédiens étaient parfaits, notamment dans cette façon de montrer dans le quotidien l'impact d'une affaire, dans la façon dont on ouvre juste le frigo, on prend une bière. Je trouve que ça, c'est merveilleusement montré. Donc, c'est une grande et belle et forte série qui joue en plus sur deux genres qu'on mixe pas souvent, la chronique judiciaire et la chronique familiale.
Ariane, vous n'avez pas l'air complètement ni convaincue ni d'accord avec vos petits camarades.
Non. Enfin, moi, je trouve le sujet vraiment super intéressant. En l'occurrence, je pense pas que ce soit seulement l'infanticide. Moi, je pense que c'est un sujet qui est encore plus tabou, dont personne ne parle jamais. C'est la dépression post-partum. Mmh. Et c'est ce qu'on montre, en fait. C'est-à-dire l'injonction
qu'on fait aux femmes. Oui, c'est
la maternité, c'est forcément merveilleux. Il y a aucune souffrance. Et de toute façon, on impose à toutes ces jeunes femmes, puisque c'est des jeunes femmes, en l'occurrence, d'être des mères parfaites. Donc voilà. Et c'est ça que ça raconte. Et ça me plaît beaucoup. Après, moi, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est le traitement, la façon dont c'est raconté. Tu parles effectivement que c'est un traitement un peu hybride. Il y a effectivement la chronique sociale que je trouve intéressante. Il y a un côté très mélo et je trouve que ce mélo est un peu raide. C'est-à-dire les flashbacks, par exemple, je les trouve assez maladroits. Je trouve aussi que l'éveil, parce que c'est un parcours d'éveil, hein, en fait, hein, cette série, l'éveil, il est quand même très téléphoné. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a une étape qui est franchie dans le procès, hop, tout d'un coup, elle se dit « Ah mais oui, mais moi aussi, je suis comme ça, etc. » Je trouve que c'est quand même un petit peu raide. Moi, ce qui sauve, à mon avis, la perception de ce personnage et son parcours, c'est qu'en fait, c'est pas seulement un portrait d'une jeune femme ou de deux jeunes femmes, c'est-à-dire la mère infanticide et la jeune jurée qui en plus est suppléante.
Ouais, comme dans sa vie de famille.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle est toujours secondaire, en retrait, et en plus, elle s'excuse en permanence d'exister. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a toute une cohorte, en fait, de personnages féminins. Il y a tous les autres jurés, il y a les mères, il y a les belles-mères, et cet ensemble de personnages féminins, je trouve là, pour le coup, donne une complexité à son personnage qui, moi, je trouve en manque. Et finalement, on voit effectivement ce que c'est que d'être une femme au Japon, dans une société patriarcale et en plus corsetée par les conventions. Mais malgré tout, comme le disait très bien Marianne, je pense que nous, femmes simplement françaises, occidentales, on peut tout à fait se projeter à ce moment-là, par cette pluralité, sur cette histoire et sur ce personnage.
Avis donc globalement et largement majoritairement pour cette série diffusée sur Arte TV, La Maison de la Rue en Pente, signalez également l'édition DVD de cette série. Et pour la scène, l'impératrice, extrait de l'album Tako Tsubo, second opus de ce groupe français. Tako Tsubo, c'est une expression japonaise que l'on pourrait traduire par le syndrome des cœurs brisés. C'est déjà très joli. Voix aiguë d'enfant mutine, rythmique électro-groove. Pour cet album plus intimiste, l'impératrice emprunte les archétypes de la pop nippone pour se les accaparer et les revisiter. Résultat, un morceau délicatement aérien.
France Inter. Série.
Petite chronique littéraire en écho à la série que nous venons d'aborder, La Maison de la rue en pente sur Arte, et je vous recommande la lecture de Combini, la fille de la supérette, un roman signé Sayaka Murata, paru aux éditions de Noël. Déjà toute petite, Keiko n'était pas une enfant comme les autres. Elle détonnait dans l'univers policier de cet âge où règne l'innocence. Mais n'a-t-elle d'ailleurs jamais été vraiment innocente ? Point d'interrogation. Devenue adulte, Keiko n'a pas su trouver sa place, ou plus exactement, elle l'a trouvée dans une supérette ouverte 24 heures sur 24, où elle officie avec talent en tant que caissière et employée modèle, mue par un stacanovisme rien inquiétant. Aux yeux des autres, c'est un échec patent de sa vie professionnelle, mais pour Keiko, c'est un lieu de refuge pour celle qui, à 36 ans, n'est toujours pas mariée, autre point faible pour cette femme. Mais le jour où un nouvel employé ayant un rapport toxique avec la gente féminine débarque dans la supérette, la vie de Keiko est sur le point de basculer. Un roman bref, incisif, sur la place de la femme au Japon, où l'importance des conventions pèse aujourd'hui encore et toujours. L'autrice de ce roman fait voler en éclats, mais à la façon discrète de son héroïne, les carcans culturels et codes moraux qui entravent les femmes dans son pays. Un roman autobiographique, ou en tout cas en partie, malgré le succès de son roman récompensé quand même du très prestigieux prix Agutakawa, qui est l'équivalent du prix Goncourt au Japon. Sayaka Murata continue de bosser dans la supérette où elle travaille depuis des années. Un roman qui dénonce aussi les conditions de travail dans un pays où règne encore une forte inégalité entre hommes et femmes. Combini, la fille de la supérette, un roman donc de Sayaka Murata, paru aux éditions de Noël. C'est l'histoire de la robe la plus célèbre de l'histoire politique occidentale du XXe siècle. La robe, mais aussi, pour ne pas dire la tache, allant avec une giclée de la semence d'un des hommes les plus puissants de l'époque, le président des États-Unis, Bill Clinton. Impeachment, la troisième saison de American Crime Story, série en 10 épisodes que vous pouvez trouver sur Canal+, après l'affaire O.J. Simpson et l'assassinat de Gianni Versace. La série d'anthologie, soit donc une intrigue différente, entièrement nouvelle à chaque saison, s'intéresse au scandale Clinton-Levinsky qui ébranla, si je peux me permettre, la présidence américaine à la fin des années 90 et faillit entraîner la chute du président démocrate. Mais c'est autant à ce couple tristement célèbre qu'à celles et ceux qui contribuèrent à révéler l'affaire que s'intéressent les scénaristes, et en particulier Linda Tripp, désavouée fonctionnaire de la Maison-Blanche, qui, furieuse d'avoir été limogée, va se venger en jouant les gorges profondes de cette tristement salace et glauque histoire de coucherie. Aidée dans sa croisade par l'avènement des sites internet distillant toutes sortes de rumeurs, dont celui de Matt Drudge, pionnier du genre.
You will lose her as a friend.
I've made my peace with that.
Are you sure you have enough evidence?
My calls with Monica.
Holy shit.
It all has to come out.
The press will destroy her.
You don't know the half of it.
My wife went into a hotel room with Bill Clinton.
And he's online.
Mr. President, do you know a woman named Monica Lewinsky?
This isn't about justice.
Then what is it about?
Impeachment.
Impeachment, heureusement qu'on me l'a soufflé parce que mon anglais est toujours aussi catastrophique. Une série écrite par Sarah Burgess et Ryan Murphy, produite par Monica Lewinsky, ce qui entrave peut-être un peu, vous allez me dire, son objectivité, avec comme toujours chez Ryan Murphy, quelques-unes et quelques-uns des meilleures actrices et acteurs américains, soit entre autres Sarah Paulson, qui est méconnaissable,
incroyable.
Ouais. Billy Feldstein, Clive Owen, qui est pas mal dans le rôle du président Bill Clinton, ou encore Judith Light, Benoît Lagane.
Et bon, on retrouve toute l'efficacité de l'anthologie de Murphy, alors plus proche, je dirais, de O.J. Simpson que de Versace, je trouve, dans la façon de traiter le sujet. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement fort dans la façon dont cette série arrive à nous parler de l'intimité de personnages que l'on et d'une histoire dont il ne reste que des images médiatiques ou des articles de presse. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très réussi. La série française, Une affaire française, voulait surfer un petit peu sur la même thématique. Je trouve qu'elle n'y arrivait pas toujours, typiquement, à mélanger et le romanesque et les faits réels. Là, je trouve qu'on y arrive parfaitement. Clive Owen, vous le disiez, dans le rôle de Bill Clinton, est le bon exemple. C'est-à-dire que on retrouve le Bill Clinton et à la fois on sait que l'on est complètement dans la fiction. Alors Monica Lewinsky a un rôle un petit peu positif, du moins on voit qu'elle aime vraiment Clinton. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui, je trouve,
il y a une sincérité dans son personnage, qui efface toute idée de manipulation, éventuellement de carriérisation ou quoi que ce soit.
Ce que j'aime particulièrement dans la série, c'est justement que ça pourrait se recentrer uniquement sur Lewinsky Clinton. Or, effectivement, c'est tous les trajets, les parcours, les enquêtes de toutes ces personnes qui tournent autour de l'affaire que l'on voit. Alors, il y a effectivement Linda Tripp, Sarah Paulson, qui est quand même la comédienne des séries de Murphy, qu'on reconnaît pas du tout, mais qui ne se fait pas étouffer par le masque qu'on lui a mis sur elle. Et ça, c'est assez rare dans les séries où parfois, quand on voit quand ils sont quand même grimés, là, c'est pas du tout le cas. Et puis moi, j'aime, pour ceux qui aiment les séries, regardez l'épisode 3, vous aurez plein de clins d'œil aux années 90, on y évoque Seinfeld, on y évoque Major Dad, grâce à ce personnage que vous citiez en introduction, de ce fameux Drudge, qui est fou de télévision et aussi, du coup, Internet naissant va révéler des tas d'affaires. Je trouve qu'en fait, alors qu'on connaît l'histoire, on se fait happer par le suspense. Enfin, ça marche beaucoup.
Ariane Nalar.
Oui, alors non, pour moi, c'est une grande déception, en fait, cette série. Parce qu'en fait, c'est une série qui se concentre exclusivement, quasiment, je dirais, sur la relation Monica-Linda Tripp. Donc, la première question qu'on se pose, déjà, c'est où sont les Clinton? Alors, Hillary, elle est complètement out of the picture. On la voit quasiment pas. Et Bill, il y a un regard quand même extrêmement bienveillant sur lui. Bien sûr, il est un peu lâche. Bien sûr, il est un peu manipulateur. Mais le pauvre, il y a toujours en permanence cette espèce de regard de chien mouillé, moi, qui m'a un petit peu agacée. En fait, on l'exemple quasiment de beaucoup de choses. Et je veux revenir sur cette relation entre ces deux femmes, parce que je trouve que d'abord que c'est quand même un schéma très classique, cette amitié féminine qui est brisée, qui est empoisonnée par le fiel, par la haine, par la vengeance, par l'amertume, parce que Linda Tripp est présentée comme une femme amère, vieillissante. Et ça m'a un petit peu gênée. Je dois dire aussi que le personnage...
Placardisée, on l'a mise quand même...
Placardisée, oui, mais...
inférieur à celui qu'elle occupait dans la maison.
Tout à fait. Et donc, elle agit par ressentiment, par amertume et par vengeance. Et ça veut dire qu'au départ, elle est présentée comme la meilleure amie de Monica. Donc c'est toujours un schéma très classique de présenter l'amitié entre deux femmes comme étant quelque chose de condamné de toute façon, et de condamné parce que deux femmes ne peuvent pas être amies. Il y a forcément une qui va manipuler l'autre et qui va se venger. Ça m'a un peu agacée. Le personnage de Monica aussi, même si la jeune actrice est plutôt pas mal, c'est une jeune fille qui est tout le temps en train de pleurer, de se plaindre, de gémir. Je trouve qu'elle est beaucoup dans le moi. Je suis pas certaine que ça lui rende service finalement de donner. Même s'il y a une forme de douceur, bien sûr qu'elle est amoureuse, bien sûr, bon, ok, mais je trouve que c'est pas suffisant. Et je voudrais poser une dernière... Moi, il me semble qu'en fait, cette série passe à côté de son vrai sujet. Son vrai sujet, quand même, c'est que c'est un scandale d'État. Et le récit politique, c'est-à-dire que je trouve que toute la part intime prend le dessus, le récit politique est complètement évincé. Et il me semble que la débâcle de Monica, parce que c'est ça que ça raconte, ça méritait... Enfin, l'histoire de ce scandale, c'était aussi la débâcle de Bill Clinton. C'est-à-dire que ça raconte ça, c'est un récit politique. C'est son deuxième mandat. On en parle jamais. Et je voudrais poser une dernière question. J'aimerais bien savoir ce que Ryan Murphy a avec les femmes mûrissantes et amères. Parce que c'est quand même pas la première fois que c'est un personnage qui est central dans son récit. Je pense à Rachel, qui était encore plus folle. Et j'aimerais bien quand même qu'un jour il nous réponde, parce que c'est quand même une petite obsession qui devient un motif un peu bizarre dans ces séries.
Écoutez, nous allons essayer de trouver un moyen de contacter Ryan Murphy pour lui poser la question. Je ne vous garantis pas une réponse immédiate. Marianne Lévy.
Alors moi, ce soir, je suis team Ariane. J'étais super déçue par la série pour toutes les raisons que Karine a dites. Même si on reste sur le terrain de l'intime, je trouve qu'en fait ces personnages sont sont décidées de manière simpliste. Il n'y a pas de complexité. Elles sont chacune, que ça soit Linda Tripp ou Monica Lewinsky, enfermées dans une espèce de truc monolithique où voilà, où rien ne bouge, où elles sont une espèce de tragédie grecque mal écrite, où voilà, le destin est plus fort qu'elles et elles peuvent pas s'en libérer. Et par ailleurs, moi, j'ai une tendresse particulière pour c'est une de mes séries préférées, c'est West Wing, ce qui est pas du tout original, j'en ai bien conscience. Mais je veux dire, une fois qu'on est dans les couloirs de la Maison Blanche et du pouvoir, on peut pas filmer comme ça. Enfin, je veux dire, c'est de la télé, c'est de l'avant la vieille télé. La réalisation est toute grise. On a l'impression que l'œil de la caméra n'a pas été essuyé. On est tout le temps derrière une espèce de voile.
Volonté d'épouser peut-être les effets visuels des années 90.
Oui, mais ce que
faire la série qu'on aurait dû faire peut-être à l'époque.
Peut-être, mais Murphy, ce qu'il a fait dans Hollywood, qui n'a rien à voir avec cette série, mais j'en ai bien conscience, mais c'était quand même une série d'époque. C'est de prendre un parti pris qui était celui de regarder d'aujourd'hui l'époque d'hier, ce qu'il aurait pu faire avec Impeachment, et ça leur a donné de la chair, de l'énergie, et là on est dans une espèce de reconstitution qui est à mi-chemin entre les Page People et un thriller politique que je trouve assez décevante et pas intéressante. Voilà.
Donc si je vous résume, déception pour les filles, léger engouement non plus pour Benoît Lagarde, donc saison d'American Crime Story intitulée Impeachment, et que vous pouvez voir sur Canal+.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Ooh, la, 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 la. Then the crowd calls. Ooh, la, 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 la. Who's gonna catch me when I fall down? Strolling down these halls of rolling dice and waterfalls. Help but smile. Troubled fortunes lies in shambles underneath the flashing light. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
Blame par les Gabriels, nouveau titre de ce trio californien qui réinvente la soul, tout en revenant aux sources du gospel, qui est la musique de prédilection du chanteur, chanteur révélé par le programme American Idol en 2010. La voix, on vient de l'entendre, elle est douce, écorchée, comme l'écho de toutes celles tues ou disparues. Une mémoire musicale et engagée qui questionne avec lucidité le contemporain américain.
France Inter. Une heure en série.
Chouette, c'est l'heure d'un effet miroir, Benoît Lagane. Donc, et dans l'effet miroir, ce soir, cher Benoît, vous revenez sur une actualité à Singapour qui concerne la robotisation dans la police.
Exactement, on apprenait il y a quelques semaines qu'à Singapour, Robocop devenait une réalité. Enfin, presque. L'agence gouvernementale HTX, qui est responsable de développer des nouvelles technologies au profit des services de sécurité, a décidé de mettre en service pendant quelques semaines dans un centre commercial plusieurs robots afin, je cite, de détecter les comportements sociaux indésirable. À l'écoute de cette actualité, forcément, donc, on pense à Robocop, le film, qui a été, pour info, adapté à la télévision canadienne dans une série d'une vingtaine d'épisodes en 1994, où l'on suit les enquêtes d'un ancien agent de police tué en service et qui revient à la vie cybernétique dans son corps de métal, soit l'esprit d'un homme augmenté par sa couverture robotique. Dans la même idée, on avait eu aussi par le passé Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, mais qui lui avait gardé esprit et forme humaine, mais qui intérieurement était totalement reconstruit.
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Bon. Le flic robot de Singapour ne ressemble pas du tout à l'agent bionique, à la Steve Austin, ou même à un Robocop. Il est plus proche, en revanche, d'un Dalek, vous savez, les poubelles extraterrestres de Doctor Who, mais en moins de design, une sorte de radar à roulettes baptisé Xavier.
Ouais, bah je ferais bien de prendre exemple sur lui, oui.
Et quand Xavier circule dans un centre commercial, vous allez voir, c'est tout vous, Xavier, il lance un message audio lorsque des gens fument dans des zones interdites, garent leur vélo n'importe comment ou ne respectent pas les règles de distanciation sociale liées au coronavirus. En revanche, comme dans la série Real Humans, l'utilisation de telles machines dans le quotidien de la vie des gens questionne. Une militante d'ailleurs pour les droits numériques s'est offusquée de l'apparition de tels Robocop. Tout cela, dit-elle, contribue à donner le sentiment que les gens doivent faire attention à ce qu'ils disent. Il y a ce qu'ils font à Singapour, bien plus que dans d'autres pays. Il n'en reste pas moins que si Xavier vous surveille à Singapour, j'attends de mon côté que la France Startup Nation se dote elle aussi de robots pour travailler dans la police. Ça donnerait des situations amusantes dans les commissariats, un peu comme dans Holmes et Yo-Yo, la comédie policière qui date d'il y a 45 ans, où un enquêteur bien nommé Holmes participait sans le savoir à une expérimentation avec un robot prénommé Yo-Yo. Mais chut, cela ne devait pas se savoir.
Nous voudrions que les essais se fassent immédiatement sur le terrain.
Mais que se passera-t-il si votre yo-yo recommence à répondre de travers?
Nous avons pensé à ce minuscule problème, bien sûr. Yo-yo est programmé pour enregistrer toutes les anomalies et il les signale en fin de journée.
Mais bien sûr, il lui faut un collègue. Avez-vous un homme sûr?
Il est indestructible?
J'en suis certain.
Envoyez-nous donc Holmes.
Jusqu'à quel point devra-t-il être informé?
Ne lui dites rien. Gardez entièrement le secret. Je ne tiens pas à avoir une grève du personnel contre l'automatisation.
Vous m'avez demandé, patron.
Oui, Alexandre Holmes, votre nouveau collègue, Grégory Gojonovitch.
Très heureux, mon vieux.
Ravi de vous connaître.
Yo-Yo vous aidera sur l'affaire Powers.
Yo-Yo?
Bon, alors, messieurs, on s'y met tout de suite. Hein?
Entendu. Où étais-tu jusqu'ici, Yo-Yo?
À la direction de la police.
Quelle brigade tu étais?
Brigade des Jeux.
T'es resté longtemps?
Brigade des Jeux.
Oui, d'accord, non, mais combien de temps t'es resté?
Brigade des Jeux. Bon, près de 3 ans, enfin 4 à la brigade des Jeux.
Allez, en attendant de voir les robots envahir nos commissariats comme dans Holmes et Yo-Yo, notre quotidien comme dans Real Humans ou nos parcs à thème comme dans Westworld, je pense qu'ils resteront toujours plus intéressants, les robots dans les séries, que dans les rues.
Merci beaucoup, cher Benoît.
Brigade des Jeux.
Votre chronique est à présent terminée, mais vous pouvez la réécouter en podcast. Oui, je sais, j'ai fait Acteur Studio. Vous êtes bien dans Une Heure en Série sur France Inter, ou Rire et Chanson, je ne sais pas, parfois il y a confusion. Mais en revanche, vous êtes bien avec Ariane Allard, Marianne Lévy et Benoît Lagane. De 7h du matin à 6h le lendemain, 24h de la vie de femme au pluriel, pour une série qui dénonce toutes les violences endurées au quotidien. H24, une série de 24 épisodes, il y a un bonus, un 25e, chaque épisode durant 3 ou 4 minutes, diffusé sur Arte et Arte TV depuis le 23 octobre. Violence verbale, drague, lourdingue, coups et blessures, abus sexuels, harcèlement, fétichisation de leur corps sur le lieu de travail, maltraitance policière, négligence des pouvoirs publics, qu'elles soient jeunes filles abusées, épouses martyres, employées modélisées, migrantes malmenées. Cette série raconte les sévices physiques et ou psychiques subies simplement par les femmes, parce qu'elles sont femmes dans un monde encore et toujours régi par une phallocratie dont on arrive encore pas à se débarrasser. Face caméra ou pas, empruntant souvent les mots de leur bourreau, elle raconte froidement ces tragédies que l'on ne cesse de banaliser, préférant détourner la tête. H24, une série dont vous me direz dans quelques instants ce que vous en pensez, mais qui personnellement m'a glacé un peu plus d'effroi, surtout lorsqu'au générique de chacun de ces 24 épisodes, plus le bonus, s'inscrit la mention inspirée de faits réels. Bienvenue dans un monde de brutes.
Tes mains sur la glace me sécurisent. Je suis trop tendue. Tu dis. J'ordonne à mes cuisses d'obéir à tes ordres chuchotés. Tu ne te souviens plus vraiment de moi. C'est que, madame la juge, j'en ai vu passer des gamines. Il disait qu'il m'aimait, comme personne ne m'aimerait jamais. Il était très jaloux, un simple trait de crayon sous les yeux. Il disait que j'avais l'air d'une pute. Il m'insultait et puis il pleurait. Je finissais par croire que j'avais toujours tort. Je voulais que ça s'arrête. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai sauté.
Tu crois que je t'ai pas vu ? À me mater sans te cacher exprès pour que je te vois, c'est bon. Je t'ai vu. Hé, ta petite robe rouge, là, j'aime bien. Vas-y, fais voir ce qu'il y a en dessous. Vas-y, réponds, petite pute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que t'es le millième à faire ça ? Ta gueule. Je l'ai pas crié, je l'ai juste dit.
H24, une série conçue et dirigée par Nathalie Masduro et Valérie Urrea, écrite par 24 écrivaines. Alors, je peux pas les citer toutes, mais on va quand même rappeler quelques noms. Agnès Dessartes, Lydie Salver, Alice Zéniter, Christiane Taubira ou encore Lola Lafont. Une série interprétée par Diane Kruger, formidable dans le premier épisode. Oui. Anaïs Desmoutiers, Valeria Bruni Tedeschi, Souéla Yacoub, Florence Loirecaille, Déborah Lukumunea, Noémie Merlan et celle pour laquelle j'ai une petite tendresse particulière, Marilyn Canto. À noter que le livre regroupant tous ces monologues vient de paraître chez Actes Sud, Ariane Allard.
Je dois dire que j'ai été totalement, moi, bouleversée, emportée par ces courts-métrages. Faut préciser quand même, effectivement, c'est une série, mais c'est une série de courts-métrages, hein. C'est-à-dire qu'il y a une thématique qui traverse l'ensemble de ces courts-métrages, mais chaque fois, c'est des petites films individuels qui a un début et une fin à chaque fois. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Moi, ce qui m'a beaucoup d'abord touchée, c'est la diversité. C'est-à-dire, c'est pas seulement la diversité des histoires, c'est aussi la diversité des représentations, la diversité des auteurs et des autrices surtout, parce que ce sont exclusivement des femmes, la diversité des actrices aussi, c'est-à-dire que ce sont des jeunes femmes ou des femmes plus âgées, ce sont des jeunes filles d'origines diverses, et je trouve que c'est très intéressant aussi d'avoir joué cette carte, parce que ça raconte effectivement que les violences faites aux femmes, elles sont faites dans tous les milieux, dans tous les lieux, et à tout moment, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi bien dans un bus, dans un métro, que chez soi. Et chez soi, c'est donc dans tous les milieux.
C'est en Europe, ce qui quand même
est en Europe.
Inquiétant, voilà, absolument.
Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des autrices allemandes, etc. C'est vrai que le court-métrage avec Diane Kruger, moi, c'est un de ceux qui m'a le plus glacé, avec celui aussi d'Anaïs de Moustier. J'ai trouvé ça passionnant, parce que ça ne dénonce pas seulement les violences faites aux femmes, hein, avec style, avec fougue, avec acuité aussi. Je trouve que c'est aussi, et c'est moi, ça me plaît beaucoup, vous me connaissez un peu, Xavier, un appel aussi à l'insoumission et la liberté. C'est-à-dire que c'est pas seulement, on donne pas seulement l'image de femmes victimaires, même si effectivement elles sont victimes et c'est assumé totalement. On montre aussi l'image de femmes qui sont à la fois rebelles, vengeresses, quand elles le peuvent, héroïques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, il n'y a pas non plus une injection à contrario.
Solidaire, parfois.
Voilà, et solidaire aussi, hein. Donc, et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est, c'est quand même, le message est quand même assez positif. J'aime beaucoup le traitement, même si ce sont des réalisatrices différentes pour chaque court-métrage, à aucun moment il y a du pathos. À aucun moment il y a d'apitoiement non plus, et à aucun moment non plus il y a de reconstitution, je dirais, douteuse. Vous savez, ce genre d'émission, on reconstitue des faits divers, on n'est jamais là-dedans, et c'est super important aussi, ne serait-ce que pour raconter ce que ça raconte, avec la dignité, avec le style et avec la fougue que ça donne. Voilà. Et bien sûr, c'est le féminicide est évidemment le point culminant, et ça aussi c'est très intéressant, c'est qu'on parle de toutes les violences, hein. C'est-à-dire, c'est on parle du harcèlement de rue, on parle un recruteur, par exemple, quand vous pensez à un entretien d'embauche, qui vous explique que si vous êtes en jupe et en talons, vous aurez plus de chances d'être prise. C'est ça aussi, ces violences-là. Et j'aime bien, il y a une hiérarchisation, mais c'est un panel global de toutes ces choses-là. Voilà. Donc moi, je veux juste dire une chose. J'ai l'impression quand même que ça a été créé parce qu'il y avait un gros ras-le-bol, hein, quand même. Que ce ras-le-bol, on le voit, on l'entend, et que c'est quand même fait avec panache. Et donc, je dis merci à toutes les femmes qui ont réalisé, interprété et écrit tous ces petits courts-métrages.
Et qui dit qu'il n'y a pas d'agression gratuite. Même un regard appuyé, même une interpellation dans la rue, c'est déjà...
Il y a vraiment une graduation, voilà, des
toutes les violences. Une chose qui est interdite de faire. Ouais. À ce niveau-là, vous avez raison, effectivement, sur ce panel et cette graduation. Ouais. Rappelez qu'il n'y a pas de petites choses, il n'y a que des crimes insupportable, fomenté à l'encontre des femmes. Marianne, Lévy.
Alors moi, je partage complètement le point de vue d'Ariane. J'ai été évidemment profondément touchée par ce projet, par le fait que ces femmes ont travaillé ensemble. Et je trouve que c'est pour compléter ce que tu as dit, que tu as très bien dit, donc je vais reprendre tes mots. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'on sent vraiment que la singularité de chacune des artistes, hein, que ce soit les écrivains, les réalisatrices ou les comédiennes, et en même temps, elles font projet commun. Donc elles s'adressent à nous et elles nous emportent avec elles. Et cette dimension universelle, elle dépasse le genre d'ailleurs. En fait, c'est une interpellation collective. Hein. Elle nous concerne, elle nous emmène sur ce terrain qui est un terrain qui est essentiel aujourd'hui, qu'elles mettent en débat et avec beaucoup de finesse, de complexité et sans faire l'économie de la démarche artistique. Parce que ce qu'elle nous rappelle, cette série, c'est que l'art a une fonction dans la société, que l'art ne se limite pas au beau. L'art parle du monde et cette série, elle parle du monde d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un petit épisode qui a retenu mon attention. C'est l'épisode où on est interpellé par Déborah Lukumoena. Mmh. Hein, c'est une jeune femme qui travaille dans un fast-food et il y a une voiture qui s'arrête et un homme commence à insulter sa femme.
Je pensais à elle au moment de dire solidaire justement tout à l'heure. Mmh.
Et d'une manière bien à elle. Et ce que j'aime aussi, c'est la dimension transgénérationnelle de cette série. Hein, parce que voilà, il y a tous les âges, toutes les femmes, tous les milieux. Et c'est ça qui fait sa force. Et cette jeune femme qui travaille dans un fast-food, elle interpelle l'homme qui est en train d'insulter sa femme. Et il y a même de l'humour, hein, puisque elle lui dit « Ma chérie, tu le veux comment ?» ton mari en faisant une espèce de hamburger et on le devine que voilà qu'elle va sortir et qu'elle va l'aider. Voilà, c'est ce qui ressort pour moi de H24.
Oui, c'est vraiment une interpellation non à la quelconque banalisation de ces actes gratuits qui peuvent n'être que verbaux mais qui sont déjà scandaleux. Benoît.
Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire toutes les deux, je vais pas les répéter. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi c'est une vraie série d'anthologie. C'est-à-dire que certes, il y a ce fil rouge, il y a cette thématique, il y a cette mécanique, 24 autrices, 24 réalisatrices, 24 comédiennes, mais il y a aussi esthétiquement un projet commun qui fait qu'on sait que dans chaque épisode, on est dans une mécanique assez proche où, par exemple, les femmes ont toute la parole. Il y a par exemple cet épisode avec Garance Marillier dans le monde du foot, que je trouve très bien, où quand l'homme parle, l'interpelle, c'est elle qui parle. Donc il y a un doublage comme ça.
Elles reprennent la voix.
Elles reprennent la voix, voilà. Donc les hommes parlent très peu, ils sont présents, etc. Mais c'est ça que je trouve vraiment dans la mécanique de fabrique merveilleuse. Après, moi, j'ai eu un peu peur à un moment donné que, justement, on tombe dans l'exercice de style. Et finalement, mis à part peut-être un épisode où, justement, je trouve que l'exercice de style prend le pas sur le propos, l'épisode notamment avec Valeria Bruni-Tedeschi réalisé par Ariane Labette, que je trouve un peu en dessous, contrairement, par exemple, à celui avec Souheila Yacoub, réalisé par Valeria Urrea et Nathalie Masduro, qui, toutes les deux, prennent en charge de la chorégraphie dans leur mise en scène. Je trouve que dans l'une, ça a du sens, c'est fort, esthétiquement, ça a un propos, et dans l'autre, malheureusement, ça tourne un peu. Donc, mis à part, voilà, un épisode sur 24, tout le reste est une claque permanente, et c'est vraiment une série d'utilité.
Bon, ben, je crois que c'est un coup de cœur unanime, salutaire, indispensable, citoyen, ai-je envie de dire. C'est quand même important de dire que de temps en temps, la série, qui est un objet de distraction, on va dire, peut avoir aussi cette vertu-là de nous faire regarder le monde avec un enseignement, avec une lucidité. Et
c'est très bouleversant aussi.
C'est très bouleversant, effectivement, c'est très artistique. Donc, H24, sur Arte et Arte TV, ne passez pas à côté de ce grand moment à la fois de série et de sociologie.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi. Le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en main. polie pour la télé. Mais va te faire en... Balance ton corps. Balance ton corps. Balance ton corps. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en... Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Balance ton quoi par Angèle. Méfiez-vous de la douceur et de la quiétude apparente de la voix de cette chanteuse qui, derrière sa rythmique, dénonce et balance avec humour et fermeté la toxicité des mecs. En 2020, Balance ton quoi est devenue l'hymne des manifestations contre les violences faites aux femmes. Une chanson qui a battu le pavé pour soutenir une cause et une lutte plus que jamais indispensable.
France Inter. Une heure en série.
Nous avons le temps d'un plateau télé. Ariane Allard, je vous cède le micro. Vous allez nous parler de Afterlife, 2 saisons à ce jour sur Netflix. La 3e, ce sera pour le courant de l'année.
Oui. Donc oui, pourquoi j'ai choisi cette série? Parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment Afterlife, c'est la fable la plus mordante, la plus désopilante et la plus tendre que Ricky Gervais ait jamais écrite, interprétée et réalisée. Ricky Gervais, pour ceux qui l'ignoraient, mais j'en doute, c'est le génial créateur de la série The Office. Et quand je parle de The Office, c'est la série britannique, qui ensuite effectivement a fécondé une série américaine. Alors, le sujet en soi, il mérite toute votre attention, puisqu'Afterlife s'est choisi pour héros un certain Tony, qui est un veuf, inconsolable, à peu près suicidaire et totalement misanthrope. Donc, à partir du moment où sa femme, qui est le grand amour de sa vie, est morte, il a décidé de dire ce qu'il veut, autant qu'il veut, sans jamais prendre de gants, ni s'excuser. En bref, il devient ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs un connard, un vrai de vrai, asshole en anglais, donc, avec tout le monde, c'est-à-dire sa famille, ses collègues, ses voisins, ses amis, avec des scènes absolument tordantes et féroces à la pluie. Alors, évidemment, je ne vais pas gâcher grand-chose en vous disant que ce grincheux totalement nihiliste, interprété par Gervais lui-même, d'ailleurs, va se révéler être un brave type. En gros, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, c'est-à-dire cet humour au vitriol témoigne surtout d'une haine profonde des convenances et des hypocrisies sociales, ça moi j'adore, et d'un amour sincère aussi pour les losers et pour les petites gens. Bref, tout lui est pardonné. Amen, et surtout vivement la 3e saison sur Netflix.
Alors, pour ceux qui ne pratiquent pas la langue de Shakespeare de manière courante, on va dire, accepteriez-vous de traduire asshole
si juste avant, j'ai dit connard, donc voilà.
Ouais, alors, il y a plus littéral quand même dans la traduction.
Non, mais juste, voilà, as du cul.
Oui, mais bon, trou. Voilà.
Je n'osais pas. Donc, j'ai trouvé mais connard, c'était plus.
Il est bien de nommer les choses par le mot exact.
Très bien, donc je ferai moins la chouchouette la prochaine fois.
Afterlife sur Netflix, 2 saisons à ce jour, et la 3e, donc, bien. Bientôt sur vos écrans, Marianne Lévy, vous nous recommandez The Good Fight sur Teva, la saison 4 spécifiquement ou tout le programme ?
Alors tout le programme parce que c'est une série absolument géniale qui se passe donc dans un cabinet d'avocats, ce qui pourrait être absolument chiant, pardonnez-moi.
Comme on est en mode gourmand,
je nomme les choses, hein, Xavier, j'obéis à votre préconisation.
Les femmes n'ont pas à obéir aux hommes, vous le savez, Marianne.
Mais les employés à leur patron, on n'a pas encore fait la révolution, donc je vous
tout viendra en son temps.
Voilà. Et donc The Good Fight, c'est une série complète complètement folle, en fait, qui, depuis le début, mélange politique et fiction d'une manière, mais d'un culot monstrueux, puisque les créateurs, Michel et Robert King, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent de leur société et ils prennent parti dans le débat politique par l'intermédiaire de leurs personnages de fiction. Donald Trump en a fait les frais dans une saison 3 incroyable, mais incroyable, où ils ont été jusqu'à convoquer Melania Trump, qui est apparue dans certains épisodes, évidemment, dans un dispositif qui fait que ce n'était pas elle, mais c'était quand même elle, et ça adressait tous les sujets d'actu. On a l'impression que les scénaristes écrivaient en lisant le New York Times, quoi. Et c'était vraiment hyper drôle, et pas seulement drôle, c'est aussi très 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 juste et politique dans le bon sens du terme, la vie de la cité, quoi. Le sujet de Good Fight, c'est la vie de la cité américaine. Et dans la saison 4 qui arrive sur Teva, alors là, on est dans un exercice, mais alors ultra périlleux, puisque la production a été interrompue par la pandémie. Et qu'en plus, cette saison 4, elle arrive en 2020, année électorale, une année chaotique, on ne savait absolument pas qui allait être le candidat démocrate, puis on ne savait absolument pas qui pouvait battre Trump. Et alors là, ils font un truc mais d'un culot phénoménal. C'est-à-dire que là, je peux le dire parce que c'est le début du premier et que ça, voilà, ça gâche le plaisir de personne. En fait, la saison 4 commence par de la politique fiction. Que se serait-il passé en Amérique si Hillary Clinton avait été élue. Mmh. Et alors là, ce qui est incroyable, et c'est vraiment un plaisir à voir, parce que en fait, les détracteurs républicains tout petits, qui ont critiqué The Good Fight, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était une série partisane. Et la force des Kings dans cette saison, c'est qu'en fait, ils regardent aussi avec vraiment un regard critique, ce qui aurait été une présidence démocrate, et ça va vraiment très 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 loin. Voilà, c'est génial et important. Génial et important et divertissant. C'est quand même très rare à la télé.
The Good Fight, donc saison 4, mais pas que. Les saisons précédentes sont éminemment recommandables.
En plus, c'est des saisons courtes. Hein.
Éminemment recommandées, saisons courtes, absolument.
Afterlife aussi, c'est très court.
Afterlife aussi, donc deux excellents choix pour ce plateau télé. Moi, j'ai encore quelques secondes devant moi pour vous recommander Sermon de minuit. Alors, c'est le pire titre peut-être de l'année, hein, quand même. Traduction aléatoire de Midnight Mass, la messe de minuit. Mass.
C'est pour rester dans le thème Halloween, oui, Xavier.
Non, voilà, c'est une série sur Netflix. C'est une mini-série, donc là aussi, pareil, en cet épisode, c'est torché. Nous sommes sur une petite île isolée américaine, alors très isolée. On n'y va que par bateau. Et donc, cet isolement géographique, l'île l'a vécu, et la petite communauté qui y habite, repliée sur elle-même, et en particulier sur des valeurs chrétiennes assez putrides, un tout petit peu passées quand même d'un autre temps. Et dans cet endroit un peu étrange, quand même, coupé du monde et coupé du temps, arrivent deux hommes. Un jeune homme qui a purgé sa peine sur le continent, puisque un soir en état d'ivresse, il a percuté une voiture et il a renversé et tué une jeune femme. Et il est hanté depuis par le fantôme de celle-ci. Et puis un jeune prêtre qui vient remplacer celui qui, depuis très très longtemps, officie dans cette île-là. Que va-t-il se passer? On est dans une pure série de genre, puisque la série est signée Mike Flanagan, qui est l'auteur, alors au cinéma, de Dr. Sleep, la suite de Shining oubliable, mais à la télévision, The Hunting, qui est une série d'anthologie plus intéressante. Ce qui l'intéresse, évidemment, c'est de radiographier l'Amérique religieuse, repliée sur ces valeurs-là, ostracisant tout ce qui n'est pas exactement blanc, wasp, chrétien. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un personnage de femme fanatique religieuse qui est vraiment jusqu'au boutiste de sa croyance. Donc c'est déjà une réflexion sur les dangers d'une religion poussée dans son orthodoxie la plus inquiétante. Et puis en même temps, à travers certains personnages, puisqu'il va y avoir des phénomènes paranormaux qui vont arriver, donc le fantastique, le genre n'est pas loin, c'est aussi une réflexion à travers le personnage du shérif qui est musulman, ben les relents islamophobes d'une Amérique qui n'a pas complètement réussi à survivre, j'allais dire, au 11 septembre 2001. Donc c'est extrêmement intéressant parce que, à la fois, c'est une pure série de genre, je ne vous en dirai rien, et en même temps, c'est une vraie radiographie politique de l'Amérique contemporaine sur un tout petit échantillon, évidemment, je vous le recommande. Sermon de minuit sur Netflix. Puisque vous avez été plutôt rapide, ce qui ne vous ressemble pas, il me reste une petite minute pour conclure cette émission. Et c'est l'occasion d'un second conseil, celui d'une encyclopédie en épisode consacrée aux animés, c'est-à-dire aux dessins animés japonais. Vaste histoire, bien sûr, et il faudra plusieurs épisodes. Le premier volume va des années 1963, très précisément à 1979. C'est rédigé par l'équipe d'Animeland, dont vous pouvez leur faire confiance pour avoir du fond et de la forme. 370 productions déjà recensées dans ce premier volume. Ce sont des années fastes, 63-1979, puisqu'on y trouve Candy, Albator, Capitaine Flamme, le roi Léo, la bataille des planètes, ainsi que spéciale dédicace pour Benoît Lagan, Zogen no Shoujo, Laura. Moi, on va dire que je m'y suis presque. Savez-vous quelle est cette série, cher Benoît?
Ben, il y a Laura dedans.
Donc,
La petite maison de la prairie.
Absolument, un animé adapté des romans de Laura Ingalls. Bon, moi, je l'ai jamais vu, vous non plus,
non
j'imagine.
Plus.
Mais qui règne en maître dans cette époque aux animés? Eh ben, évidemment, c'est le dieu, l'absolu.
À ta ruse dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au poing. Champion de la Terre.
On l'a tous reconnu, c'est Goldorak qui fête ses 80 ans quand même, mais il ne les fait pas avec ses fulgures au poing.
Goldorak, go!
D'accord, il y en a qui n'en sont pas sortis. Je vous le rappelle donc, Encyclopédie des animés, volume 1, aux éditions Inis. Une heure en série, vous entendez le générique comme ça, qui sort des limbes de notre mémoire et qui m'impose de vous dire au revoir. C'est donc fini pour cette semaine. Et oui, mille merci Ariane, Marianne et Benoît d'y avoir participé. Merci une fois de plus, évidemment, à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé plutôt La Maison de la Rue en Pente sur Arte TV, moyennement Impeachment sur Canal+, et complètement, radicalement et passionnément H24 sur Arte TV. La semaine prochaine, nous évoquerons Happiness, toujours sur Arte TV, Killer Social Club sur Audible et VTC sur Canal+. Demain soir, un masque et la plume consacré à la littérature. Ne manquez pas ce rendez-vous. Une heure en série, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site internet. Nous envoyez des courriers, le compte Instagram. J'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Amel Kaldi. L'émission a été réalisée évidemment comme toujours par les doigts de fée de Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale a été assurée par Valentine Chédebois et ce soir à la technique, Jérémy Kaufmann.